Scarp Ciné.
Séquence 15.
Votre rendez-vous 7e art en région.
Zoom sur les films et séries tournés près de chez vous.
Clap sur les techniciens du son et de l'image.
Interview, chronique, musique.
Sur Radio Scarf Sensé, ça tourne.
Et action!
Bonjour à tous, place à votre émission cinéma en région avec Carole et moi-même Joris. Aujourd'hui, on regarde ensemble sur le petit écran la nouvelle série sur OCS Pécheresse, réalisée dans la région Hauts-de-France, notamment à Roubaix. On en parle avec sa créatrice, scénariste et réalisatrice Charlotte Sanson. Elle est co-scénariste du film Un vrai bonhomme de la saison 2 d'Hippocrate et créatrice de la série fantastique Les 7 vies de Léa. Elle est notre invitée en visio dans Scarp Ciné, sur Radio Scarp Sensé et sur Radio Club.
Lumière sur votre cinéma, sur la plus locale des FM.
Et dans Scarp Ciné, aujourd'hui, on parle de Pécheresse, une série sur OCS créée et réalisée par Charlotte Sanson, produite et tournée en région Hauts-de-France. Charlotte Sanson est notre invitée aujourd'hui. Bonjour.
Bonjour.
Et nous sommes avec Carole, en visio.
Bonjour à tout le monde.
Charlotte Sanson, vous réalisez cette série donc actuellement sur OCS qui raconte l'histoire de Cassidy, joué par Léonie Dahan-Lamort, rebelle de 17 ans qui se fait virer de la caravane familiale pour avoir posté des vidéos sur un site de Camgirl alors qu'elle est encore mineure. Sa mère l'inscrit alors dans un internat pour punir Cassidy. Elle doit se racheter une conduite en s'intégrant dans ce pensionnat où vit donc des sœurs. Une série qui va au-delà des interdits et en même temps, on peut dire une série impertinente.
Oui, c'est impertinent et en même temps, je pense qu'elle est assez bienveillante et respectueuse, notamment pour les différentes religions qui sont représentées dans la série, quoi. Disons qu'il y a une espèce de rencontre entre les désirs des jeunes filles un peu bouillonnants et le cadre strict de la religion. Mais quelque part, les attentes et le conformisme ne sont pas toujours là où on l'attend, quoi, dans la série.
Alors, comment vous avez eu l'idée de créer cette série qui mêle en même temps le silence et le bruit ?
Ben, en fait, c'est très simple. Moi, ma toute première année d'études, mes parents m'avaient inscrite dans un foyer de jeunes filles comme ça. On était une famille athée, donc moi, je n'avais pas spécialement de représentation de ce qu'allait être ce lieu, à part juste que j'aurais une chambre pour moi toute seule, quoi. Et c'est vrai que quand je suis arrivée, pour moi, c'était un peu hallucinant, ce pensionnat qui me semblait sorti d'un film ou d'une autre époque, quoi, puisque on vit avec des religieuses, il y a des règles quand même, la grille est fermée tous les jours à la même heure, donc vers 20h le soir, après on ne peut plus rentrer, donc on ne peut pas sortir non plus le soir, il y a plein de choses qui sont interdites. Et en même temps, moi, ça reste un super souvenir cette année-là, puisque c'était très joyeux de vivre entre filles de tous horizons comme ça. Les bonnes sœurs, je les ai souvent trouvées surprenantes. Et au final, voilà, c'est cette expérience que j'ai voulu raconter entre, encore une fois, le bouillonnement des jeunes filles de 17-25 ans, quoi. Et puis ce cadre qui est à la fois enfermant, mais qui est aussi un cocon et un espace de sécurité, quoi.
Au final, il y a plein de vie dans ces lieux.
Les bonnes sœurs elles-mêmes, elles sont cloîtrées. Donc leur vie est vraiment une vie de prière et de partage avec leur communauté, quoi. Par contre, les jeunes filles ramènent énormément de vie dans tout ça, puisqu'elles sont étudiantes. La journée, souvent, elles sont absentes, elles vont faire leurs études ou au lycée pour les plus jeunes d'entre elles. Mais par contre, le soir, effectivement, ça fait des réfectoires plein de monde, des couloirs où ça discute, des chambres où ça peut tourner à la soirée pyjama, même si c'est pas trop recommandé, c'est pas interdit non plus. Les filles, elles peuvent quand même circuler dans les couloirs, etc. Donc, c'est ce contraste que je trouvais intéressant à filmer, quoi.
Oui, c'est un internat, hein. C'est pas entre guillemets une prison.
Non, et puis c'est pas non plus un vrai couvent, c'est-à-dire que c'est un couvent pour les religieuses, mais la partie qui est dédiée aux jeunes filles, c'est un internat. Ouais, la journée, elles peuvent sortir, elles sont pas cloîtrées.
Carole.
Vous annoncez dans une note d'intention qu'on est dans une philosophie punk vraiment, il y a cet esprit de subversion, de détournement des codes, la dérision. Comment vous avez construit vos épisodes avec ça, avec ces aimants-là?
Bah, moi, un truc qui me tient beaucoup à cœur, c'est le mélange des genres. Je l'avais déjà expérimenté dans ma série précédente qui s'appelle Les 7 vies de Léa et qui a été diffusée sur Netflix, qui est toujours disponible d'ailleurs sur Netflix, où là, c'était un mélange entre du voyage dans le temps, du fantastique, du body swap, de la romance et un peu de thriller. Donc, c'était déjà un mélange des genres assez complexe. Et là, j'ai voulu mélanger surtout bah, les codes habituels de la série ado, où on est quand même beaucoup en train de se poser des questions sur, sur ses désirs, sa vie sentimentale, etc. Et là, j'ai voulu mélanger ça avec la question de la foi, qui est assez rarement abordée chez les ados, alors que pour moi, ça fait partie aujourd'hui du spectre sur lequel les gens ont envie de se positionner quand ils entrent dans l'âge adulte, que ce soit pour en sortir en se décidant athée, ou en embrassant une religion, ou au contraire en rejetant la religion qui nous a été attribuée culturellement. Enfin voilà, il y a plein de voies possibles par rapport à la religion aujourd'hui. Et à côté de ça, dans la forme, j'ai voulu mélanger un peu de comédie musicale qu'on a au début de l'épisode 3, un peu de thriller puisque la série bascule complètement dans son dernier tiers, où on flirte carrément avec le film d'horreur dans le dernier épisode, et tout ça avec quand même une forme de légèreté et d'entrain, parce que je voulais avant tout que la série elle ait la fougue des jeunes filles que je dépeins, quoi. Donc qu'en fait ce mélange des genres soit aussi justifié par ce qu'elles vivent intérieurement. À cet âge-là, on vit des sentiments très très forts, donc je voulais que tout soit magnifié aussi par l'intensité des sentiments qu'on a à cet âge-là, quoi.
Ma fille a besoin de cadre. Alors ça va lui faire beaucoup de bien d'internat comme ici.
Vous savez, ici, les règles sont plutôt strictes. Hein. Dans la journée, vous faites votre vie, vos études, mais le soir ici, c'est pas de cigarettes, pas d'alcool, couvre-feu à 20h. Pas d'internet non plus après 20h.
Il y a des exceptions?
Certainement pas. Ici, on a besoin de calme.
Et Cassidy rencontre donc des jeunes filles dans cet internat. Et on voit que chaque jeune fille a un parcours de vie cabossé. Est-ce que vous pouvez présenter justement ces personnages?
Alors oui, en fait, Cassidy, quand elle arrive dans ce pensionnat, elle a l'impression que ça va être une prison et que c'est pas du tout un endroit pour elle. Et en fait, assez vite, elle va se faire une bande de copines hyper forte, quoi. Donc la bande des quatre, donc il y a Cassidy qu'on a déjà présenté, il y a Marie-Céline, donc dite MC, et Malika, qui sont un binôme de copines indéfectibles, qui sont là depuis longtemps ensemble et qui vivent tout en binôme. Marie-Céline, c'est une jeune fille qui est étudiante en médecine et qui, du coup, a passé une jeunesse un petit peu atypique, puisque ses parents ont divorcé, elle est restée là dans ce couvent qui lui a pas trop permis de vivre une jeunesse très libre, on va dire, quoi. Et en plus, l'étude de médecine, où voilà, les premières années, on travaille énormément, on est enfermé, qu'on le veuille ou non, qu'on soit dans un couvent ou pas, de toute façon, pour passer le concours la première année, il faut travailler énormément. Et elle, elle relève la tête de ces années-là, elle se rend compte qu'elle n'a pas beaucoup vécu sa jeunesse. Et grâce à Cassidy, qui va lui apprendre à faire le mur, elle va commencer à avoir une vie, on va dire, plus épanouie de jeune fille de son âge, qui est ce qu'elle désire à ce moment-là, quoi. Et elle, dans son parcours religieux, on sent qu'elle a été élevée dans la tradition catholique, mais qu'aujourd'hui, c'est pas une religion qu'elle revendique spécialement. À côté, on a donc Malika, la meilleure amie de MC, qui est donc elle une jeune fille musulmane pratiquante, qui est étudiante aux Beaux-Arts. Et Malika, pour moi, c'est très important de représenter ce personnage, puisque contrairement à ce qui est parfois dit, parce que je vois les commentaires sur Instagram maintenant que la série est sortie, etc., il y a des gens qui se disent que c'est pas cohérent d'avoir une jeune fille musulmane dans un couvent. Alors qu'en fait, moi, dans le foyer où j'étais, il y avait des jeunes filles musulmanes, et il y en a encore plus aujourd'hui, en fait, puisque c'est des lieux de vie qui sont non mixtes, où les valeurs religieuses vont être complètement tolérées, c'est-à-dire que là, le fait qu'elles soient voilées, par exemple, personne ne l'emmerde avec ça, puisque les bonnes sœurs sont voilées elles-mêmes, et où le fait de pratiquer une religion n'est pas du tout vu comme quelque chose de bizarre. Donc en fait, il y a pas mal de jeunes filles musulmanes dans ces lieux-là. Elles ne sont pas majoritaires, mais elles sont vraiment représentées. Malika en parle d'ailleurs dans l'épisode 5. J'ai fait exprès que ce soit assez tardif dans la série parce que je voulais pas que ce soit comme une note d'intention plaquée, quoi. Je voulais que pour chaque personnage, ça vienne un peu organiquement le moment où elle se met à raconter pourquoi elle est arrivée là et pourquoi elle y reste, quoi. Et enfin, le dernier personnage, c'est au début de la série Gaspard, qui est donc le petit ami de Malika, qui a des problèmes chez lui et que Malika va vouloir aider. Et c'est donc Cassidy qui, encore une fois, va avoir cette idée de pousser Gaspard à se maquiller, à s'habiller en fille pour pouvoir vivre aussi dans le foyer. Sauf que ça fait justement écho à des questionnements très profonds chez Gaspard, qui va en profiter pour explorer son identité de genre et au point d'avoir un trajet vraiment assumé dans cette direction-là, quoi. Je spoil pas trop pour les spectateurs et spectatrices qui n'auraient pas vu encore.
Et puis, il y a bien sûr toute une galerie de personnages qui gravitent autour de cette bande aussi, qu'on rejoint très vite. L'idée aussi, très vite dans cette série, c'est, voilà, elles ont juste quelques minutes de connexion sur Internet et elles vont pirater la box Wi-Fi du couvent avec les colocataires. Qu'est-ce que pour vous cela symbolise, cette Wi-Fi, un peu de la discorde, on va dire, c'est un accès à bien sûr à la liberté, au monde extérieur, mais elles sont vraiment attachées à ça.
Alors en fait, moi donc j'ai plus du tout l'âge de mes personnages, mais nous à l'époque, ce qui nous obsédait, c'était de sortir, puisque la vie était à l'extérieur. On voulait aller à des concerts, on voulait aller à des fêtes, et on se sentait quand même un peu enfermé à devoir rester à travailler dans cet internat. Moi, ça fait très longtemps que j'ai ce projet, mais j'ai été amenée à le remanier complètement après le confinement, puisque à cause du Covid, on a tous connu l'enfermement, le couvre-feu. Enfin, c'est des notions qui étaient très romanesques pour moi à la base dans ce projet et qui sont devenues finalement beaucoup plus universelles après le confinement, puisque tout le monde a connu ça, tout simplement le fait de devoir rester chez soi, qu'on ne puisse pas accéder au divertissement à l'extérieur, etc. Et comme la jeunesse actuelle était de toute façon déjà très tournée vers Internet, mais que ça s'est encore augmenté avec le confinement, j'ai eu la sensation que c'était plus très moderne de raconter juste leur envie de sortir. Pour moi, leur envie, elle est aussi d'avoir leur existence en ligne, en réseau, sur les sites qu'utilisent les personnes de leur génération. Et du coup, j'ai ajouté toute cette dimension où deux d'entre elles ont une chaîne Twitch. Donc, c'est Malika et MC qui jouent à un jeu vidéo en ligne, en partageant leur partie avec des abonnés qui interagissent avec elles via le chat. Et elles enragent un peu parce qu'elles savent que, comme là, dans le couvent, le Wi-Fi se coupe à 20h. En fait, elle rêverait de pouvoir avoir accès à Internet la nuit, puisque c'est là que les gens se retrouvent sur ce genre de site, quoi. Et du coup, en gros, je voulais vraiment que Cassidy soit comme une espèce d'agent du chaos qui, à la fois, fout un bordel monstre dans ce lieu et en même temps permet à tout le monde de se libérer. C'est-à-dire qu'elle va donner vraiment à chacune l'occasion de devenir plus elle-même que ce qu'elle n'était, quoi. Mais aussi à ce lieu, enfin, c'est un peu la boîte de Pandore, quoi. Elle fait un peu entrer le loup dans la bergerie. Elles rêvent toutes d'avoir Internet la nuit, mais on voit dans la série qu'il ne se passe pas que des choses positives autour de ça, quoi. Et moi, là-dessus, je voulais avoir un discours nuancé. Je voulais ni dire qu'être en ligne toute la journée, toute la nuit, c'est parfait. Je sais qu'il y a pas mal de dérives autour de ça aujourd'hui, mais je voulais pas non plus montrer ça comme quelque chose de diabolique, dans le sens où il se passe plein de choses super aussi sur les réseaux. Moi, je regarde énormément Twitch. Je trouve que c'est génial comme manière de faire du live tout en interagissant avec un public. Pour les gens qui sont férus de jeux vidéo, comme c'est le cas de MC et Malika, je trouve ça super aussi de pouvoir partager ça en ligne avec des gens qui ont la même passion. Juliette également, dans son trajet d'accession à la transidentité, va trouver aussi des appuis à travers les échanges qu'elle a via le chat. Donc voilà, je voulais à la fois montrer des choses très positives comme ça, d'entraide et d'éveil politique, mais aussi le revers de la médaille, qui est clairement le harcèlement que vivent encore beaucoup les jeunes filles et les jeunes streameuses en ligne aujourd'hui, quoi. Et donc ça, c'est un peu toute la dernière partie de la saison, mais je ne spoil pas trop.
Moi, Cassidy, vous l'avez dit, hein, c'est une forme d'accélérateur de particules. Et puis, le mot accélérateur ne me plaisait pas bien. Et en cherchant un peu, j'ai retrouvé dans les cours de chimie le terme de catalyseur, une substance qui augmente la vitesse des réactions chimiques. Et puis, en allant encore plus loin, j'ai retrouvé estérification, le lien entre alcool et acide carboxylique, qui est un créateur de parfums, et donc parfum d'une odeur agréable et fruitée. Et je trouve que ce processus d'estérification, il est proche de Cassidy. Elle va permettre à tous ces gens autour je ne vais pas dire d'être en odeur de sainteté, entre guillemets, mais il y a ça, ce truc un peu fruité. Mais elle aussi, elle va changer. Et donc, c'est du gagnant-gagnant dans cette histoire.
Bah ça, je voulais surtout le raconter par rapport à l'amitié féminine. On a beaucoup montré par le passé les femmes comme souvent en rivalité dans les fictions. Moi, là, au contraire, je voulais montrer des filles qui s'entraident, qui s'encouragent, qui parfois sont en conflit. Hein. Ça n'empêche pas de parfois se disputer, mais je voulais avant tout les montrer comme un groupe soudé qui allait donner le meilleur d'elles-mêmes parce qu'elles sont ensemble, en fait, quoi. Et le pouvoir que ça leur donne aussi d'être en bande.
Et on est vraiment dans cette bande de filles qui va se dépasser, aller au-delà de leur zone de confort habituelle. Je pense à Sidonie, qui est cette novice qui doit faire ses vœux. Cassidy pose vraiment la question, est-ce qu'elle doit aussi découvrir le monde ?
Bah, en fait, le trajet de Sidonie, il est légèrement différent. Elle est un petit peu en marge de la bande, puisqu'elle est du côté des bonnes sœurs. Elle a choisi cette voie et elle souhaite vraiment s'engager dans la religion. La rencontre avec Cassidy l'a fait juste s'interroger sur est-ce qu'elle a suffisamment vécu pour faire un choix de vie aussi radical. Et c'est un choix qui lui va lui être questionné aussi par sa communauté à un moment donné, quoi. C'est est-ce que vous avez vraiment fait le tour de la question, puisque c'est pas du tout un choix anodin que de décider de... D'ailleurs, ils sont assez longs, les parcours de noviciat. En fait, c'est quand même des années, hein, puisque c'est un choix quand même très engageant. Et moi, je trouvais ça intéressant de montrer toutes ces jeunes filles à la croisée des chemins, de voir que même avec quelques années de plus, c'est un choix de vie un petit peu plus affirmé de la part de Sidonie, puisqu'elle a quelques années de plus que les autres personnages, on peut se retrouver quand même à hésiter, à se poser des questions qui sont autant de l'ordre de la foi, de l'amour. Voilà, moi, le sujet que je voulais avoir, c'était vraiment la vingtaine et ce... qui est moins traité dans les séries, je trouve, que l'adolescence. La vingtaine, pour moi, c'est vraiment cette croisée des chemins, quoi, où tout est encore possible, et en même temps, il faut commencer à faire des choix. Et c'est vrai que, vous l'avez bien dit, Cassidy sert effectivement de... Alors, je connaissais pas le terme, hein, estérification, je connaissais pas, mais accélérateur de particules, oui, c'est ça, c'est vraiment quelqu'un qui va tout précipiter, parfois, d'ailleurs, avec des pots cassés, hein, puisque c'est pas rien de, des fois, balancer les quatre vérités à tout le monde et tout... C'est Léonide avant la mort qui aime bien résumer Cassidy comme ça, un peu une chippie, quoi. Elle ne fait pas que des choses bien non plus, hein, loin de là. En tant que scénariste, j'adore jouer avec le langage et je suis toujours fascinée par les évolutions de la langue et contrairement à des gens qui veulent absolument se cramponner à une forme voilà, d'ancienneté de la langue française via le dictionnaire, moi je pense que ça n'a pas de sens parce que la langue elle n'a fait que d'évoluer. Quand on lit, je sais pas, Rabelais et qu'on compare à la langue française d'aujourd'hui, ça a beaucoup changé et c'est en même temps super. Chaque époque et chaque génération s'empare de la langue et la transforme. Pour moi, il n'y a pas de crainte à avoir à cet endroit-là, c'est juste joyeux, en fait, quoi. Et moi, en tant que scénariste, j'ai plaisir à faire évoluer la langue de mes personnages de projet en projet. Et là, je voulais vraiment, effectivement, que ça sonne juste par rapport à la génération vraiment pile-poil de maintenant. Peut-être que dans 2 ans, il y a des expressions qui seront déjà obsolètes, mais c'est pas grave, ça aurait été la photographie de comment parlent les jeunes, là, en 2000, ben, on a tourné en 2024, il y a peut-être certaines expressions qui commencent déjà à passer de mode, mais c'est pas grave, tout ce que je voulais, c'est que ça sonne le plus juste possible, et d'être avec leur auto-référence aussi. Moi, je pense qu'à cet âge-là, on se crée des références entre potes, chaque groupe de potes a un peu ses références, ses propres expressions, parfois des surnoms, des choses détournées, etc. Là, par exemple, ça se traite de pécheresse à cause d'un mec qui crie cette insulte à Cassidy dans la rue. Bon, c'est volontairement hyper référencé, mais parce que pour moi, c'est ça, l'amitié à cet âge-là, quoi. C'est qu'on se dit beaucoup de trucs qui n'auraient pas forcément sens pour le reste des gens autour. Et je voulais vraiment qu'on ait la sensation de vivre cette aventure avec elle, de faire partie de la bande, quoi, le temps des 6 épisodes. Alors après, c'est vrai que 6 épisodes, c'est très court. On pourrait avoir envie de passer plus de temps avec elle, idéalement. Mais voilà, c'était le format qui avait été posé par la chaîne, donc effectivement c'est un temps très très resserré, quoi.
On a envie de les découvrir aussi plus longuement, peut-être pour un film ou une saison 2, hein, qui sait. Et ce que j'aime aussi, pareil, on parle de dialogue, j'aime aussi l'image. Il y a ce côté aussi un peu, pas irrévérencieux, mais en tout cas, voilà, qui casse les codes. Quand il fume, par exemple, dans la salle de repos, de prière, pareil, quand il chante, quand il rappe à côté de l'hôtel. Voilà, là aussi, en tant que scénariste, on s'amuse aussi à casser les codes de cet internat.
Mais alors, ce qui est marrant, c'est que les trucs qui ont l'air les plus scénarisés, justement, et haut en couleur, c'est plutôt les choses qui viennent du vécu, pour le coup. C'est-à-dire que tout ce qui est scénarisé est vraiment complètement inventé. C'est le rapport à Internet, évidemment, des trucs un peu fictionnels entre les personnages, etc. Mais par contre, tous les petits détails, comme la fille qui répète pour la Starac dans la chapelle, ça, c'est complètement véridique. Moi, c'est une scène à laquelle j'ai assisté. Et la question que pose Cassidy à la sœur juste après. C'est une question que j'ai posée et la bonne sœur m'a fait exactement cette réponse
Ah oui.
qui m'avait époustouflée parce que j'avais trouvé ça hyper. En fait, elles sont beaucoup plus ouvertes que ce qu'on pourrait imaginer, les bonnes sœurs. Et moi, c'est un peu ça que je voulais raconter avec cette série qui est très joyeuse et qui édulcore certains problèmes qu'il y a pu avoir. Enfin, par exemple, il y a déjà eu des fictions qui se passent dans des couvents et qui sont hyper dures, comme Magdalene Sisters, etc. Moi, je voulais montrer l'envers de ça puisque c'est exactement ce que j'ai pu voir moi, quoi. C'était des gens très bienveillants et très gentils, en fait, avec les jeunes filles, parfois presque maternelles, en fait, dans leur lien avec ces jeunes filles. Et non, non, il y a pas mal de choses inspirées de mon vécu, même les histoires absurdes d'essayer de faire le mur en faisant des listes pour pouvoir retrouver la clé, perdre la clé, se retrouver enfermé dehors. Enfin voilà, ça, c'est des trucs que j'ai vécu, ouais.
Moi, j'aime bien aussi l'esthétique aussi, même dans le titre Pécheresse, il y a une esthétique un peu culture pop aussi des années 2000 dans cette couleur.
Oui, alors c'est vrai que les années 2000 sont revenues très à la mode là chez les jeunes filles d'aujourd'hui. Donc c'est vrai que là, ça se télescope entre la mode de mon époque à moi et celle de maintenant, parce que finalement, la mode, comme souvent, a un peu fait une boucle sur elle-même. Et j'ai travaillé avec un graphiste que j'aime beaucoup qui a fait tous ces génériques et tout le générique de début sont différents à chaque fois, avec
Oui.
une police différente pour le mot pécheresse, etc. Et qui a fait toutes les animations aussi de ces génériques, quoi. Et c'est vrai que ça apporte beaucoup visuellement à la série. C'est aussi lui qui a animé tous les chats qu'on voit quand elles sont sur Twitch. Donc c'est vrai que ce côté très coloré apporte beaucoup à la série, ouais.
Et justement, je trouve que c'est aussi bien filmé aussi ces séquences sur en live Twitch. On a vraiment l'impression d'y être. On est en même temps spectateur, mais en même temps acteur avec ses filles. Et c'est ça, on traverse l'écran.
Alors c'est ça que permet le fait qu'on a tourné en webcam beaucoup de ces passages. Nous, ça nous permettait d'avoir plus de rush déjà tout simplement, mais aussi de vraiment projeter le spectateur dans l'expérience de ce que c'est de regarder une vidéo sur Twitch aujourd'hui ou un live Twitch quoi, puisque c'est vraiment le même cadrage. On a utilisé le même logiciel d'ailleurs que celui qu'utilisent les streamers, donc OBS. Et par contre, la grosse gageure en termes techniques, c'était de réussir à faire défiler le chat en live. Et que ça raccorde avec les plans où on basculait sur la caméra normale et que du coup on revoyait l'ordinateur à l'écran en fait quoi.
Et
Ça
là,
a l'air de rien, mais en fait c'était une grosse galère technique.
aussi, il y a un travail sur le dialogue. C'est que maintenant, le dialogue, ça passe beaucoup par les émoticônes. Il y a un.
Oui, bah en tout cas moi j'ai vraiment voulu jouer avec ça, toujours avec ce même graphiste Mathieu Cadion de Laos qui m'a vraiment aidé à. Parce qu'aussi il s'est énormément investi sur le projet. Hein. Dans l'épisode 5, on a carrément. Inventer des emojis puisqu'on ne pouvait pas utiliser ceux qui existent puisqu'ils
Ah,
ne sont pas
d'accord.
libres de droit. Donc il a créé des emojis qu'il a ensuite animés et parfois on les a mis en plein écran parce que ça exacerbait encore les émotions des personnages. Par exemple, quand elles se mettent à paniquer, quand quelqu'un se met à les harceler dans le chat, il y a certains emojis effectivement qui permettent de magnifier encore leurs émotions. Et comme je l'ai dit tout à l'heure à Carole sur le mélange des genres, moi c'est vrai que c'était vraiment une volonté que j'avais de pousser tous les curseurs de leurs émotions. Pour être à fond avec elle, quoi. Donc ça joue aussi dans cette direction-là.
La créatrice, scénariste, réalisatrice de la série Pécheresse à découvrir sur OCS. La suite de l'interview se fait dans un petit instant après une des musiques de la série Princesse, signée Julie Rouet.
Vibrez avec le cinéma de la région dans Scarpe Ciné.
Ouais, grosse. MC dans la place. Et je crois que tu m'as pris pour une conne. Regarde-moi pas et baisse les yeux. Ah, tu vois, moi je casse les codes. Et quand je veux, je te casse en deux. Allez, y'a quoi? J'ai pas ton temps, nanana. Même à droite, tant pis pour toi, blablabla, bla, bla. Tu dis quoi? Articule ou ferme-la. Allez, y'a quoi? Ouais, tu veux ma teuf? Ouais, j'ai découché, j'suis une vraie meuf, aujourd'hui j'kiffe ma vie fois neuf. Allez, y'a quoi? Ouais, tu veux ma teuf? Ouais, j'kiffe ma vie fois neuf.
J'suis une princesse, j'suis une princesse.
Panty panda dans ta vieille caisse.
J'suis une princesse, j'suis une princesse.
Sur ma bécane, à grande vitesse. Panty panda dans ta vieille caisse. Là. Ouais, moi je kiffe ma vie.
Julie Rouet, compositrice de la bande originale de la série Pécheresse, diffusée sur Canal Plus OCS, une production tournée à Roubaix. La créatrice, scénariste et réalisatrice Charlotte Sanson est notre invitée en visio avec Carole pour parler de son histoire de Cassidy, une ado rebelle qui se fait mettre à la porte de la caravane par sa mère et qui l'inscrit dans un internat situé au sein du couvent. Rencontre avec Carole et moi-même Joris sur Radio Scarpe Sensé et Radio Club.
Scarpe Ciné, dans les coulisses des tournages de films et séries au coin de votre rue.
On parlait d'images. Moi, il y a des regards caméra qui sont très beaux pour moi. Il y a celui de Malika dans le chat religieux, mais il y a aussi son pendant de Cassidy dans le confessionnal. Et comment vous avez eu cette idée-là?
En fait, c'est le chef opérateur Victor Zebo, qui est très talentueux, hein, avec qui j'ai travaillé, et j'ai eu beaucoup de chance parce que c'est sa première fois en télévision. D'habitude, il fait plutôt des longs métrages ou des documentaires ou encore des films d'artistes plutôt dans le domaine de l'art contemporain. Et c'est lui qui a eu cette envie, ou en tout cas cette proposition des regards caméra. Parce que moi, comme c'était ma première réalisation, c'est vrai que c'est pas forcément un truc que j'aurais eu l'idée de faire spontanément, puisque les regards caméra, on a toujours un peu peur que ça puisse sortir de la scène ou que ça sonne subitement moins juste. Il faut aussi des comédiennes qui savent le faire, parce que ça peut ressembler à un défaut si c'est... Enfin, si le regard accroche la caméra pas au bon moment ou pas comme il le faudrait. Et là, c'est vrai que les deux comédiennes ont hyper bien, sur les passages que vous citez, hyper bien capté ce jeu, en fait, avec la caméra. Mais c'est vrai que j'aurais pas eu l'idée toute seule. Le travail, de toute façon, entre le réalisateur, réalisatrice et le chef opérateur, c'est vraiment quelque chose de très précieux, puisqu'il y a vraiment un duo qui se forme, quoi. Il faut être vraiment en symbiose avec son chef-op. Surtout avec des séries comme ça, où on tourne très très vite, on n'a pas beaucoup de temps pour échanger sur le plateau, donc il faut avoir eu toutes les discussions artistiques en amont, prévu un maximum de choses... Et faire confiance aussi au chef-op pour aller capter parfois des micro-détails, des choses comme ça, laisser aussi une forme de liberté aux collaborateurs et collaboratrices, quoi. D'ailleurs, je tiens à dire que sur ce projet, j'ai été vraiment très très bien épaulée, puisque j'étais vraiment avec des gens à fond derrière le projet, qui ont été très force de proposition et qui m'ont vraiment portée, quoi.
Alors justement, ce projet, on va en parler sur le plan aussi un peu technique, et notamment de la réalisation, puisque c'est une série aussi en lien aussi avec Pictanovo et la région Hauts-de-France, puisque c'était tourné à Roubaix, dans un ancien couvent, c'est ça?
Oui, alors tout à fait, c'est le monastère des Clarisses. D'ailleurs, il y a eu une émission sur France Culture cette semaine où ils les ont interviewés pendant quelques minutes là, pour discuter un peu de ce qu'est en train de devenir cette association. Donc en fait, moi j'avais trouvé ce lieu par le site de Film France, qui est donc un site dédié au milieu du cinéma pour repérer des lieux de tournage. Et j'avais eu un vrai coup de cœur pour ce monastère des Clarisses, puisqu'il me rappelait vraiment les souvenirs du lieu où j'étais moi. Ça ressemblait vraiment, et puis en même temps, il y avait un côté assez romanesque, puisque... pas mal livré à lui-même, quoi. Il y avait cette espèce de jardin très très broussailleux que malheureusement on n'a pas pu filmer autant que ce que j'aurais voulu. Il y avait un côté un peu friche laissée à l'abandon, ce qui était le cas quand ils ont récupéré le lieu, donc l'association Saison Zéro, qui est une association de jeunes architectes qui avait repéré que ce lieu était acheté par la mairie de Roubaix, mais que pour l'instant ils n'en faisaient rien. Et ils ont proposé à la mairie de l'investir en respectant énormément le lieu, mais en permettant à des jeunes artistes d'y installer leur bureau, en fait, quoi. Et donc, c'est à la fois devenu une auberge, on peut y loger, et je crois que c'est pas très cher, d'ailleurs, ça peut être un bon plan logement, quoi. En même temps, c'est un lieu d'expérimentation, puisque comme c'est des jeunes architectes qui travaillent pas mal sur des manières de rénover énergétiquement un lieu comme ça, mais sans le dénaturer. Donc, par exemple, à l'intérieur des anciennes cellules de Bonne Sœur, ils mettent des anciennes toiles de bateaux recyclées qui leur servent de baldaquin pour essayer de chauffer le moins possible et que l'isolation se fasse presque d'elle-même, quoi, avec quelqu'un qui dort sous ce baldaquin clos. Et la chapelle sert de lieu de conférence. Mais comme ils avaient envie aussi que ce lieu puisse servir d'accueil pour des tournages, comme ça a été le cas pour le mien, tout est réversible. C'est-à-dire que nous, la chapelle, c'était très facile de la retransformer en chapelle à partir du moment où ils n'ont pas touché en fait à l'esthétique des murs, des fenêtres, etc. Il a juste suffi de sortir les bancs qui leur servent pour les conférences et mettre à la place des objets religieux que nos chefs décorateurs, décoratrices sont allés chercher un peu partout dans les Emmaüs de la région, quoi. Donc voilà, donc c'était vraiment parfait pour le projet, puisque comme le lieu est désacralisé, il n'y avait pas de souci d'autorisation spécifique, puisqu'on a visité d'autres lieux religieux pour la série, et c'est vrai que dès qu'il y a des personnes en train de prier, etc., on a l'impression de les déranger énormément quand même, enfin, et de toucher à quelque chose de sacré. Là, comme c'est désacralisé, on n'est pas en train de déranger voilà, un lieu de culte. Et en même temps, comme eux, ils ont eu cette approche vraiment très respectueuse du lieu, il y a quand même quelque chose de l'ordre d'une aura qui subsiste encore, quoi, dans le cloître, dans la chapelle, et même dans les cellules des religieuses, quoi. Ils en ont même laissé certaines en l'état, au cas où, pour certains tournages, c'était nécessaire, et aussi comme témoin, quoi. Il y a un côté un peu presque archive dans la manière qu'ils ont eu d'appréhender le lieu. Et en même temps, c'est très vivant, c'est à l'image de la série, puisque dans les cellules qui servent maintenant de bureau, il y a des tatoueurs, des graphistes, des dessinatrices. Enfin voilà, c'est très vivant, quoi. D'ailleurs, le mélange entre l'équipe du tournage et les gens qui vivent là-bas et travaillent là-bas, c'est naturellement très bien fait, quoi.
Et c'est vrai qu'il y a une esthétique véritablement déjà dans ce lieu. Et en plus, voilà, le tournage s'est bien passé. On en parlait avec Carole pour préparer cette émission. Et on ressent même que les actrices entre elles se sont bien entendues et qu'il y a une vraie sororité entre elles.
Alors oui, moi je voulais vraiment constituer une bande de filles, comme c'était le sujet qui me tenait le plus à cœur dans la série. Quand j'ai commencé le casting avec la directrice de casting, Catherine Charrier, on a vraiment cherché à constituer une bande qui fonctionne. Donc moi j'avais repéré Léonie dans La Mort dans le film La Morsure de Romain de Saint-Blanca. Et à partir du moment où on avait choisi Léonie et qui avait accepté avec joie de faire le rôle, on avait comme ça notre premier violon, comme l'a dit un des directeurs de casting. Et autour de Léonie, on a cherché à constituer une bande cohérente. Et moi, c'est vrai que je les ai fait faire des répétitions ensemble, des essais ensemble, etc., pour voir comment ça circulait entre elles. Puisque je voulais quand même que, même si je savais qu'on n'aurait pas le temps d'improviser sur le tournage, je voulais quand même qu'il y ait quelque chose de l'ordre d'un ping-pong, quoi, assez nerveux entre elles et que tout simplement elles s'entendent bien, quoi, qu'elles aient plaisir à passer du temps ensemble et tout. Donc on a passé pas mal de temps à répéter avec les quatre comédiennes principales et moi, donc ça a permis aussi de se faire confiance les unes aux autres. On a beaucoup discuté de sentiments, de religion, etc., de ce qu'elles étaient prêtes à mettre ou pas dans la série. Enfin voilà, on s'est vraiment accordé comme ça. Et ce qui a été super, c'est que comme c'était un tournage, donc encore une fois très fauché, donc où tout doit aller très vite, elles se sont beaucoup soutenues dans l'adversité. Elles ont beaucoup répété ensemble. Elles se sont entraidées quand il y avait des petits coups de fatigue ou quoi. Enfin vraiment, elles ont été super les unes avec les autres. Ce qui pour moi était très joyeux parce que comme c'était ce que racontait la série, c'était génial de voir les comédiennes de l'autre côté de la caméra, voilà, en temps de pause et tout, rigoler ensemble, nouer des liens et tout. Et ce qui est super, c'est que là, elles sont restées copines depuis le tournage, quoi. On continue à se voir de temps en temps, mais je sais qu'elles se voient beaucoup plus aussi entre elles, quoi, comme elles ont toutes le même âge, etc. Et ça, c'était très joyeux, ouais. Et on peut dire la même chose de l'autre côté de la caméra avec l'équipe technique et artistique, où pareil, il y a eu beaucoup d'entraide et de soutien. Les différents postes étaient très soudés. Il y a pas mal de gens qui retravaillent ensemble, d'ailleurs, même sans moi maintenant, qui se sont connus sur le plateau et qui se sont soudés depuis, quoi. Donc ça, c'est pour un réalisateur, une réalisatrice, c'est ce qu'on peut espérer de mieux, quoi. De fédérer comme ça une bande autour de soi, puisque à la fois ça fait un tournage très joyeux, et puis surtout ça infuse aussi le projet, quoi. C'est que là je trouve que ça se sent à l'écran leur complicité. Il y a plein de moments d'ailleurs où j'ai joué un peu avec la frontière entre réalité et fiction. J'ai laissé certains fous rires, certains petits clins d'œil, où voilà, je trouvais ça chouette en fait que la vie rentre aussi dans le montage, quoi, que ce soit pas trop trop cadré.
Et Carole l'avait remarqué d'ailleurs, on en parlait tout à l'heure.
Bad bitch! Bad bitch!
Meuf, il y a internet.
Ça doit être cool de savoir qui on est vraiment.
Et une salope, c'est une femme libre.
Moi, je rêve d'être une salope.
Moi, je veux dépendre de personne.
Ici, on a tout le droit à une seconde chance.
Moi, je vous aime trop, les meufs. Vous êtes mes premières copines.
Ben voilà, putain, j'ai cru que j'étais la seule personne sensée ici.
La seule pécheresse, tu veux dire.
Donc, de ce que vous dites, vous êtes aussi, un peu comme Cassidy, un catalyseur. Pour les actrices et aussi tout ce qui est personne derrière la caméra par rapport à cette scène.
De toute façon, c'est le propre de la réalisation, quoi. On est avant tout un chef d'orchestre quand on réalise, puisque toutes les compétences techniques sont du côté de nos partenaires, donc que ce soit chef opérateur, la décoration, les costumes. Le son, enfin voilà, chaque personne amène son talent et son art au service du projet. Le vrai talent du réalisateur ou de la réalisatrice, c'est de réussir à agréger toutes ces personnes-là, de les faire travailler ensemble et que tout aille dans la même direction pour servir le projet, en fait, quoi. Et bon, moi, c'est vrai que c'était ma première expérience, donc j'espère que je réussirai à l'avenir à le refaire aussi bien, mais là, je me suis vraiment extrêmement bien entourée de gens très bienveillants et de cette équipe voilà, très joyeuse et très bosseuse, quoi. Donc c'est comme ça qu'on a réussi à avoir autant de matière en si peu de temps, puisqu'on n'avait que 18 jours de tournage, ce qui est extrêmement court pour 6 épisodes. Hein. C'est vraiment, pour vous donner un ordre d'idée, avec ce budget-là et ce temps-là, sur la télé plus traditionnelle, on fait un seul épisode de 52 minutes. Là, nous, on a fait la série entière avec ce budget et ce temps, ce qui nécessite quand même beaucoup de débrouillardise et d'entrain, on va dire, quoi.
Une série qui a été primée, d'ailleurs, au Festival de la fiction TV de La Rochelle, pour la meilleure actrice, pour Léonie, qu'elle reçoit un prix. Je pense que pour une réalisatrice, ça doit être très touchant, et de se dire que voilà, on l'a mis en scène et qu'on lui a apporté beaucoup de choses, mais elle nous a apporté aussi beaucoup derrière la caméra.
Ah oui, Léonie a énormément donné au projet. Elle a vraiment donné beaucoup d'elle-même, beaucoup c'est un personnage qui est assez proche d'elle aussi, enfin voilà, elle a été vraiment très très généreuse dans ce qu'elle a donné à ce projet. Et moi, c'est vrai que comme c'était ma première réalisation, ça m'a vraiment poussée à faire confiance à mes intuitions, puisque je suis arrivée en casting en disant voilà, on va voir du monde, c'est le jeu, etc. Mais moi, je pense vraiment que Cassidy, c'est Léonie d'avant la mort. Et quand les directeurs de casting l'ont rencontré, ils m'ont tout de suite dit oui, t'as raison, fais-le. Enfin. Et le fait que derrière, ce soit un prix qui lui soit décerné à La Rochelle, etc., c'est vrai que pour moi, ça m'a plutôt vraiment poussé à me dire qu'il ne faut pas lutter contre nos intuitions, mais au contraire, se dire que la réalisation, c'est aussi ça, quoi. C'est croire très fort en quelque chose ou en quelqu'un. Et là, Léonie, ouais, en plus, on a fait beaucoup de promos ensemble autour de la série. C'est devenu un vrai alter ego, quoi. Elle parle extrêmement bien de la série. Elle a vraiment hyper bien capté tout. C'est quelqu'un d'une grande finesse aussi, ouais. Quoi. Donc c'est une ambassadrice de choix pour cette série, quoi. Vraiment.
Et est-ce que pour terminer, on peut dire que cette série, autant devant que derrière la caméra, c'est une série qui est une découverte de la première fois pour toutes, et aller au-delà des apparences, vivre des vies et aussi se raconter des vies.
Oui, c'est une jolie manière de le dire. C'est vrai que c'était beaucoup de premières fois pour beaucoup de monde. Moi, c'était ma première réalisation. Beaucoup de chefs de poste étaient des techniciennes aguerries, mais plutôt du cinéma. Pour beaucoup de gens, c'était la première incursion en télé et quand même un baptême du feu assez, assez salé, quoi, parce que comme je l'ai dit, il fallait aller très très vite, donc c'est pas du tout les mêmes habitudes qu'au cinéma. Il y a certaines comédiennes dont c'était les premières fois sur des rôles aussi conséquents aussi. Puisque comme c'est encore des jeunes comédiennes, elles ont parfois été repérées sur des seconds rôles ou dans le mannequinat, ce qui est le cas de Lou Sério, par exemple. Mais c'est vrai que là, pour certaines, c'était des premiers rôles. Je me demande si c'était pas un des tout premiers tournages aussi dans ce couvent, parce qu'ils ont beaucoup poussé à ce qu'il y ait des tournages là-bas, mais le lieu correspond pas toujours en termes de vétusté. C'est pas toujours ce que recherchent les personnes qui veulent tourner. Donc voilà, il y avait vraiment beaucoup d'apprentissage, ce qui était assez à l'image, ouais, de ce qu'on raconte dans la série, c'est vrai.
Carole, un dernier mot?
Alors, mon dernier mot, c'est le clip Princesse. Ouais, il m'a retourné. Et donc, je vais pas dire que ça a fait ma journée, mais et c'est pour ça que je suis prof et je vais conseiller la série à mes élèves.
Ah bah génial, moi je suis ravie quand il y a du jeune public qui peut accéder à ce type de série. Parce que voilà, moi j'avais déjà la même problématique avec Les 7 vies de Léa, ma série précédente. Donc j'écris quand même souvent des choses adolescentes ou comme on dit young adult ou teen movie quoi. Et c'est vrai que ça reste toujours un peu un mystère de est-ce que les gens qui sont concernés, qui ont vraiment le même âge que les personnages, vont y accéder? Alors je sais que pour Les 7 vies de Léa, ça a vraiment été le cas puisque quand je rencontre des gens beaucoup plus jeunes que moi, souvent ils l'ont vu quand ils avaient l'âge des personnages, et c'est une série qui a pas mal fait date aussi, parce qu'il n'y en a pas tant que ça, des séries ados en France avec ce type de budget, quoi, parce que cette vidéo-là, pour le coup, c'était une grosse série. Celle-ci, c'est vrai que déjà, elle est plus confidentielle. Ciné Plus OCS, c'est une chaîne évidemment plus confidentielle que Netflix, et je ne sais pas si le jeune public, même quand leurs parents sont abonnés à Canal+, je ne sais pas s'ils connaissent cette chaîne et s'ils vont trouver le chemin, quoi. Donc moi, j'ai essayé de beaucoup alerté sur les réseaux sociaux sur l'existence de cette série, notamment en participant à des émissions sur Twitch, sur YouTube, etc. Mais plus il y a de relais comme le vôtre pour propager la bonne parole, mieux c'est.
On va
Merci
propager la
d'avoir parlé
bonne
à vos élèves.
parole, il n'y a pas de souci. Dernière question, les jeunes adorent aussi les séries. Cette série, Pécheresse, aurait pu avoir sa place à Sérimania. Et je sais que Sérimania, c'est un festival que vous aimez bien. Et vous y êtes allé cette année. Qu'est-ce que vous avez vu? Qu'est-ce que vous retenez de ce festival cette année?
Alors oui, moi j'aurais beaucoup aimé qu'on puisse envoyer la série à Sérimania, tout simplement parce qu'on avait tourné à Roubaix, donc toute une partie de mon équipe est lilloise. Donc évidemment, ça aurait été super joyeux de pouvoir y aller tous ensemble. Malheureusement, l'an dernier, on était encore en montage et la chaîne savait qu'on n'allait pas sortir tout de suite. Et c'est vrai que les chaînes de télé, ils n'aiment pas trop envoyer une série en festival quand c'est très loin de la sortie, puisqu'ils aiment aussi s'appuyer sur les festivals pour commencer le plan de communication. Donc ils ont préféré qu'on envoie à La Rochelle. Qui était plus propice, on va dire, à notre date de sortie. Bon, pas de regret là-dessus, puisque comme en plus on a eu un prix à La
Oui.
Rochelle, etc. C'était très joyeux comme expérience. Mais c'est vrai que moi, de mon côté, j'avais quand même poussé pour qu'on puisse peut-être envoyer à Sérimania, puisque je savais que tout simplement pour l'équipe, ça aurait été super, quoi. Si jamais on avait été pris, hein, parce qu'après, il faut jamais présager non plus de ce qu'aurait été l'issue. Et sinon, cette année, moi, j'y suis allée du coup en touriste, hein, puisque ma série était sortie. J'étais contente de croiser pas mal de gens du milieu et qui me disent ce qu'ils avaient pensé de Pécheresse, et tout simplement regarder moi-même des séries en tant que spectatrice. Enfin, je dis spectatrice et scénariste, créatrice de séries, parce que c'est toujours intéressant de voir ce qui se passe dans les autres pays, ce que permet Sérimania. C'est quand même un festival international. Et c'est quand même super chouette de voir ce qui se passe un peu partout dans le monde. Ça fait un peu une photographie de ce qui s'est produit là en 2025-2026. Et moi, bah, mes deux coups de cœur du festival, bah, c'est Proud, qui a eu d'ailleurs deux prix. J'ai vu comme le palmarès est tombé hier soir. Moi, j'ai vraiment eu un coup de cœur pour cette série, qui est la toute première que j'ai vue en arrivant au festival jeudi dernier. Qui est donc une série sur un jeune homme gay dans une vie. Un mode de vie, on va dire, relativement délétère, qui se retrouve à devoir prendre soin de sa nièce suite à une histoire assez tragique. Et à partir de là, bah, ça pose vraiment la question de comment faire famille quand notre mode de vie est pas vraiment propice à ça. Et puis, c'est pas encore dans le dur de ça dès les premiers épisodes, mais on se doute aussi qu'il va y avoir des sujets liés à son mode de vie en Pologne et l'adoption possible ou pas, quoi. On sent qu'il va devoir montrer patte blanche et peut-être aménager des choses dans sa vie pour pouvoir adopter cet enfant, mais pour qui il est le seul repère, quoi. Voilà, donc c'est très touchant. Vraiment, j'étais très très émue par cette série dont j'ai vu trois épisodes. Et sinon, l'autre série que je mentionnerais, c'est Major Players de la réalisatrice qui avait fait How to Have Sex et qui s'appelle Molly Walker. J'oublie, elle a deux noms de famille, je crois que c'est Molly Manning Walker, quelque chose comme ça. Qui était présente et qui a très bien parlé de sa série, qui donc raconte l'histoire de deux jeunes filles qui montent un club de foot féminin dans leur lycée, où évidemment le foot est plutôt dédié habituellement aux garçons, quoi. Et l'une d'elles lance un pari disant qu'elles vont les battre au foot, quoi. Et c'est une chronique adolescente comme il y en a plein, mais qui a vraiment le talent de la réalisatrice. Je sais pas si vous aviez vu How to Have Sex, mais le long métrage était vraiment extrêmement marquant et elle a remis son talent au service de cette série.
Et moi, j'ai vu à Arambert présenter au Sérimania la série Grandiose qui a reçu le prix de la meilleure série française diffusée prochainement sur TF1. Et on est dans ce même regard sur la jeunesse, Charlotte Sanson, puisque c'est un lycée et internat qui accueille des jeunes qui ont des troubles de comportement alimentaire. Et c'est une série diffusée très prochainement. Et j'ai adoré parce qu'il y a aussi ce collectif, cette union aussi des acteurs qui sont devenus amis dans la vraie vie. Et il y a ce réalisateur aussi qui bouscule aussi tous les préjugés plaisants à voir et qui parle aussi d'une jeunesse qu'on ne voit jamais, qui a un mal-être dans leur corps et qui va au-delà du corps, puisque ça, on explique que ça, il y a des origines qui vont beaucoup plus loin. Donc ça s'appelle Grandiose, c'est une série qui a reçu le prix de la meilleure série pour TF1. Voilà, donc j'ai rencontré le réalisateur et l'équipe. On mettra le lien sur le Facebook de Scarpe Ciné. Merci.
Mais alors d'ailleurs, si je peux me permettre, vous avez raison de faire le parallèle, puisqu'on partage un co-auteur, Frédéric Rosset, qui a donc co-écrit l'épisode 5 de Pécheresse. Mmh. Il fait partie de l'équipe d'auteurs de Grandiose. Et il y a également sa sœur Camille Rosset, avec qui j'ai travaillé plusieurs fois, qui est également générique de Grandiose. Donc voilà, vous faites le parallèle entre deux séries, mais c'est vrai qu'on se connaît bien entre les deux équipes, voire on a même partagé le travail avec certaines personnes, quoi. Donc je me permets de les saluer au passage et de les féliciter pour ce prix.
Et bravo pour cette série, j'ai vu les deux premiers épisodes, j'ai hâte de voir la suite. Merci beaucoup Charlotte Sanson, on rappelle Pécheresse donc sur Ciné Plus OCS, donc créé et réalisé par vous-même et tourné en région Hauts-de-France. C'est encore disponible sur la plateforme OCS, j'imagine.
Oui, ça va le rester. En fait, les épisodes ont été diffusés deux par deux depuis le 3 mars. Et depuis le 17 mars, ils sont tous en accès sur la plateforme Ciné Plus OCS, à laquelle vous pouvez accéder si vous êtes abonné à Canal Plus, donc sur MyCanal, l'application Canal Plus.
Voilà, donc il faut s'abonner et découvrir vraiment cette série qu'on vous recommande avec Carole. Merci beaucoup. Merci, Carole.
Merci.
Merci beaucoup pour votre accueil. Merci.
Merci. Avant de se quitter, on fait un petit tour dans les salles obscures pour y voir en ce moment The Drama avec le duo Zendaya et Robert Pattinson, le nouveau Super Mario Galaxy ou encore Compostelle avec Alexandra Lamy. Et en salle ce jour, la suite de Cocorico avec deux grands noms de la comédie française, Christian Clavier et Didier Bourdon. L'Enfant du désert, un très beau film de Gilles Demestre entre nature et humanité. Et La femme 2 avec Mélanie Thierry. C'est les claps de fin de Scap Ciné pour aujourd'hui. On se donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro. Et d'ici là, vous le savez, allez au cinéma.
Scap Ciné,
séquence 15.
Votre rendez-vous 7e art en région.
Zoom sur les films et séries tournés près de chez vous.
Clap sur les techniciens du son et de l'image.
Interview, chronique, musique.
Sur Radio Scarf 106, ça tourne.
Et action!